Mon attention est allée cette semaine vers un passage de la Bible dans la lettre de Paul aux Philippiens, au chapitre 2, à partir du verset 19. Passage qui m'a permis de réfléchir aux relations que l'apôtre Paul entretenait avec ses collaborateurs, ses compagnons de ministère, ceux qui l'épaulaient dans son travail de proclamation de la parole de Dieu. Et voici ce qu'il dit, donc Philippiens chapitre 2, à partir du verset 19. « J'espère, en comptant sur le Seigneur Jésus, vous envoyer bientôt Timothée pour être moi-même encouragé par les nouvelles qu'il me donnera de vous. Il n'y a personne ici, en dehors de lui, pour partager mes sentiments et se soucier sincèrement de ce qui vous concerne, car tous ne s'intéressent qu'à leurs propres affaires et non à la cause de Jésus-Christ. » Mais vous savez que Timothée a fait ses preuves comme un enfant aux côtés de son père. Il s'est consacré avec moi au service de l'Évangile. C'est donc lui que j'espère pouvoir vous envoyer dès que je verrai quelle tournure prennent les événements pour moi. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que je viendrai bientôt moi-même chez vous. Par ailleurs, j'ai estimé nécessaire de vous envoyer Épaphrodite, mon frère, mon collaborateur, mon compagnon d'armes, votre délégué que vous avez chargé de subvenir à mes besoins. Il avait en effet un grand désir de vous revoir et il était préoccupé parce que vous avez appris qu'il était malade. Il a été malade, c'est vrai, et il a frôlé la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et pas seulement de lui, mais aussi de moi, pour m'éviter d'avoir peine sur peine. Je me hâte donc de vous le renvoyer pour que vous vous réjouissiez de le revoir. Cela adoucira ma peine. Réservez-lui donc l'accueil dû à ceux qui appartiennent au Seigneur. Recevez-le avec une grande joie et ayez de l'estime pour de tels hommes, car c'est en travaillant au service du Christ qu'il a failli mourir. Il a exposé sa vie pour s'acquitter à votre place du service que vous ne pouviez me rendre vous-même. » C'était dans la Bible dite du semeur que j'ai fait cette lecture. Il n'y a pas de doute, l'apôtre Paul était un homme de relations. Il suffit par exemple de voir la longue liste de personnes qu'il salue à la fin de sa lettre aux Romains, au chapitre 16, pour le constater. C'était un homme de Dieu qui ne travaillait pas seul. Il savait s'entourer de personnes compétentes pour l'aider dans son ministère. Il savait déléguer des responsabilités à d'autres et il savait responsabiliser les églises qu'il fondait à prendre leurs propres décisions, des décisions pour leur vie locale, leur organisation et le choix de leurs propres responsables, les fameux anciens, comme on les appelait à l'époque. Il faut dire aussi que Jésus, lorsqu'il a choisi ses apôtres, il n'a pas choisi un apôtre, il a choisi 12 apôtres, donc une équipe. Et lorsque dans l'évangile de Luc, il nous est dit qu'il a désigné 72 disciples, il les envoie deux par deux, ce qui montre que pour lui l'annonce de l'évangile était un travail qui devait se faire en équipe et pas de manière isolée. L'annonce de l'évangile est une mission si noble, si exigeante qu'elle ne peut se réaliser finalement qu'en équipe. Rien d'étonnant que dans le Nouveau Testament, le mot « ancien » apparaisse toujours au pluriel et jamais au singulier. Ce ministère est trop sérieux pour n'être exercé que par une seule personne dans une église. Le travail du Seigneur ne peut pas se faire de manière isolée. On ne peut être responsable d'une église qu'à plusieurs, en équipe. Et l'apôtre Paul l'a certainement bien compris. D'où l'importance qu'il attachait à la collaboration et au travail en équipe. Il a su s'entourer d'hommes et de femmes, de jeunes et des adultes dans sa mission d'annoncer l'Évangile, dans sa mission de fonder et d'organiser les communautés chrétiennes, dans la nécessité de réfléchir ensemble à des stratégies pour affronter et traiter les questions théologiques et pastorales de son époque. L'apôtre Paul constitue donc un exemple éloquent d'un homme ouvert, comme on dit aujourd'hui, à la collégialité, ouvert à la collaboration avec d'autres. Il ne voulait pas tout faire tout seul dans son ministère, dans ce ministère que le Seigneur lui a confié. Mais il se servait donc de nombreux collaborateurs pour accomplir plus efficacement sa mission, celle que le Seigneur lui a confiée. On peut affirmer donc que c'était vraiment l'une des caractéristiques de son style pastoral, le travail en équipe. Comme l'atteste d'ailleurs non seulement ce chapitre 16, la lettre aux Romains, n'est-ce pas, avec cette longue liste de collaborateurs qu'il mentionne, mais aussi dans plusieurs de ses écrits où il mentionne beaucoup d'autres collaborateurs. Il avait des dizaines et des dizaines de collaborateurs un peu partout. Citons à titre d'exemple parmi ses collaborateurs hommes, commençons par ceux dont le nom se termine par AS. Quelqu'un les appelait les As de l'apôtre Paul. Barnabas, Épaphras, Silas, Démas, Aquilas. Ensuite, on pourrait citer Tite, Luc, Apollos, Tichique, Aristarque, Sylvain. Bien sûr, Timothée et Épaphrodite qui apparaissent donc dans le passage de ce matin. Et beaucoup d'autres, beaucoup d'autres. Parmi ses collaboratrices, parce que l'apôtre Paul avait aussi des collaboratrices, et parfois on oublie ça, n'est-ce pas? On peut citer entre autres Damaris, Lydie, Priscille, Phoebé, et puis celle dont le nom ressemble à des médicaments, Tryphène, Tryphose, Nymphée, et puis Évodie et Sentiche qui apparaissent aussi dans cette lettre aux Philippiens. Et la liste n'est pas exhaustive. On peut trouver d'autres femmes qui ont collaboré aux côtés de l'apôtre Paul. Ce sont donc des dizaines et des dizaines de collaborateurs et de collaboratrices que l'apôtre Paul a su constituer autour de lui, mettre autour de lui pour l'aider. Ce qui est sûr, c'est que, on le voit bien, il avait constitué une équipe variée et forte autour de lui. Des personnes d'une grande valeur qui l'ont assisté, qui l'ont soutenu, qui l'ont accompagné dans les différents fronts de sa mission d'apôtre. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est comment l'apôtre Paul traitait ses collaborateurs, ses compagnons, ceux qui l'épaulaient dans son travail missionnaire. Dans la plupart de ses écrits, il cite les noms de ses collaborateurs tout en faisant mention d'une fonction ou d'une expression pour qualifier sa relation avec eux, avec chacun d'eux. Par exemple, il introduit ses lettres en associant le nom de Timothée au sien. Il dit « Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ ». Dans la lettre aux Romains, au chapitre 16, verset 3, il dit à propos de Prisca et Aquilas, « Prisca et Aquilas, mes collaborateurs dans le Christ ». Au verset 9, en parlant de Urbain, il dit « Urbain, notre collaborateur dans le Christ ». Au verset 21, il parle de Timothée encore en disant « Timothée, mon collaborateur ». Dans la lettre à Philémon, il cite plusieurs de ses collaborateurs en disant « Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes compagnons d'œuvre. » Dans Colossiens chapitre 4, verset 12, il parle d'Épaphras en disant « Épaphras, serviteur du Christ Jésus ». Dans Colossiens chapitre 8, verset 23, il présente Tite comme étant son associé, je cite, son associé et collaborateur. J'arrête là la liste parce qu'elle est longue. Comme on peut bien s'en rendre compte, ces qualificatifs traduisent le dynamisme de cette équipe qu'il avait autour de lui. Et quand il utilise le mot « serviteur » pour parler de ses collaborateurs, vous savez que ce mot dans l'original, c'est le mot « doulos », n'est-ce pas, dans le grec « doulos ». C'est un mot qui signifie littéralement « esclave » et suggère l'idée de quelqu'un qui travaille dans la disponibilité totale à l'égard de son maître, en l'occurrence Jésus-Christ. C'est d'ailleurs cet attachement au Christ, à l'instar d'un vrai doulos, d'un vrai esclave, serviteur, qui fera dire à l'apôtre Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Or, ces qualificatifs, outre ces qualificatifs typiquement liés au travail apostolique, L'apôtre Paul désigne aussi ses collaborateurs par des expressions chargées d'une certaine affection. Par exemple, on revient au chapitre 16 de la lettre aux Romains, verset 1, il dit « Je vous recommande Phoebé qui exerce son ministère dans l'église de Sancré. Réservez-lui comme à quelqu'un qui appartient au Seigneur l'accueil qui lui doivent des chrétiens. Mettez-vous à sa disposition pour toute affaire où elle aurait besoin de vous, car elle est intervenue en faveur de beaucoup, et en particulier pour moi. » Au verset 7, il dit « Saluez Andronicus et Junias, mes compatriotes et mes compagnons de captivité. » Au verset 12, « Saluez Tryphène et Tryphos, qui toutes deux travaillent pour le Seigneur, ainsi que Perside, encore une autre femme, Perside, la bien-aimée, dit-il, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. » Au verset 13, il dit « Saluez Rufus, ce serviteur du Seigneur d'une grande valeur. » Et il ajoute « Et sa mère, qui est aussi une mère pour moi. » Dans Philémon, il dit, au verset 1, « Philémon, notre bien-aimé collaborateur. » Et au verset 23 de cette lettre à Philémon, il parle d'Épaphras et il dit « Épaphras, mon compagnon de captivité, Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs. » Dans 1 Corinthiens chapitre 4, il dit « Aristarque, mon compagnon de captivité. » Dans Éphésiens chapitre 6, verset 21, « Tychique, le frère bien-aimé et fidèle serviteur dans le Seigneur. » Dans Luc chapitre 4, verset 14, « Luc, le médecin bien-aimé. » Et j'arrête là la liste, elle est longue. Ces différents qualificatifs que l'apôtre Paul attribue donc à ses collaborateurs, notamment les qualificatifs affectifs, prouvent que le travail apostolique, donc réalisé en équipe, parfois au prix d'immenses souffrances et sacrifices, engendre la sympathie, l'estime et l'amitié même, l'amitié, l'affection vraie et sincère. D'où l'usage d'expressions telles que « bien-aimé », « mon frère », »,« mon compagnon », »,« mon enfant », etc. Tous ces qualificatifs affectifs et professionnels, si je peux le dire comme ça, traduisent non seulement le dynamisme de cette équipe qui était autour de l'apôtre Paul, cette équipe qu'ils formaient ensemble pour le Seigneur, mais aussi la collaboration harmonieuse, n'est-ce pas, et les liens d'amitié, d'attachement mutuel qu'ils avaient entre eux. Et même avec Apollos. Apollos, missionnaire nord-africain, n'est-ce pas, originaire d'Alexandrie, avec qui l'apôtre Paul avait quelques divergences. L'apôtre Paul entretenait avec lui, on peut dire, une autre forme de collaboration, caractérisée certes par la différence, par l'autonomie, mais aussi par la complémentarité. Ces différences n'ont pas empêché l'apôtre Paul de le considérer comme un frère en Jésus-Christ et d'employer une métaphore très intéressante pour parler du rôle que lui, Apollos, et lui, Paul, ont joué dans le travail du Seigneur. Nous la trouvons dans 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 6, où il dit « Après tout, que sont donc Apollos et Paul ? Des serviteurs grâce auxquels vous avez été amenés à la foi, chacun d'eux accomplissant la tâche que Dieu lui a confiée. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Peu importe en fait qui plante et qui arrose, ce qui compte c'est Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra son propre salaire en fonction du travail accompli. Car nous travaillons ensemble au service de Dieu, et vous, vous êtes le champ que Dieu cultive. » Très belle image, n'est-ce pas? Et vous, vous êtes le champ que Dieu cultive. Donc l'important, c'est Dieu, et c'est le champ et l'Église, le champ que Dieu cultive. Quand on le voit, la différence est clairement perçue en termes de complémentarité. Paul, l'apôtre, nous offre ici un bel exemple de collaboration de maturité. Vous savez que la différence est souvent à la base, n'est-ce pas, de division, de séparation dans les églises entre chrétiens. Mais ici, la différence pour l'apôtre Paul devient un principe de collaboration dans la complémentarité. Lui aussi, il a son rôle à jouer. Il est différent de moi, mais il a aussi son rôle à jouer dans le travail du Seigneur. Et ici, dans ce passage qui nous occupe ce matin, Il fait mention de deux de ses collaborateurs précieux, comme vous avez pu remarquer. Deux personnes qui ont joué un rôle très important pour son ministère. Il s'agit de Timothée et d'Épaphrodite. Comment les traite-t-il ? Comment les traite-t-il ? Il les traite de manière très spéciale, très, très chaleureuse, n'est-ce pas, comme on peut le constater. Timothée, qui est d'ailleurs co-signataire de cette lettre, cela veut dire qu'il se trouvait avec l'apôtre Paul à ce moment-là, alors que l'apôtre Paul était en prison. Ça ne veut pas dire que Timothée était en prison. Il a fait de la prison plus tard. Mais en ce moment-là, il rendait sans doute visite à l'apôtre Paul en prison. L'apôtre Paul le considère comme son fils spirituel. Son fils spirituel. Il dit de lui au verset 22, « Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi comme un enfant avec son père. » Comme un enfant avec son père. Voilà donc l'un des qualificatifs affectifs que l'apôtre Paul attribue au moins à deux de ses collaborateurs, à Timothée, comme nous venons de le voir, mais aussi à Tite, pour Tite, à qui il adresse ces mêmes paroles, Tite 1.4, « Tite, mon véritable enfant, à notre foi commune. » Même si dans d'autres passages, l'apôtre Paul attribue à Timothée le titre de serviteur, de collaborateur et de frère, il ne cache pas sa grande affection, cette grande affection qu'il a pour ce collaborateur qui était spécial pour lui, Timothée. Quand il s'adresse personnellement à Timothée, notamment dans les deux lettres qu'il lui a adressées, 1 et 2 Timothée, n'est-ce pas, on voit apparaître régulièrement l'expression « Timothée, mon enfant bien-aimé ». L'apôtre Paul a une relation très particulière avec Timothée. Timothée est pour lui comme un fils spirituel, qui est devenu collaborateur, l'un des collaborateurs les plus proches de l'apôtre Paul, tant sur le plan pastoral qu'affectif. Il y a eu sans doute des raisons, n'est-ce pas, qui expliquent cette proximité entre ces deux hommes. Beaucoup plus jeune que lui, Timothée était fils d'une mère juive qui s'appelait Eunice, n'est-ce pas, femme croyante qui avait une foi sincère selon le témoignage de l'apôtre Paul qui les connaissait sans doute bien, qui connaissait bien cette famille. On ne sait pas exactement, mais vu la relation que Paul avait avec Timothée, on peut supposer que c'est grâce à lui, finalement, que Timothée est venu au Seigneur. Certains disent que c'était lors du premier voyage missionnaire, lorsque l'apôtre Paul est passé par Lystre, là où se trouvaient Eunice et son fils Timothée. En tout cas, l'apôtre Paul fait référence dans sa deuxième lettre qu'il lui adresse au fait que Timothée a non seulement suivi de près son enseignement, ses projets, etc., mais aussi qu'il a été témoin de ses souffrances, de ses persécutions, de sa vie d'apôtre, de missionnaire. Donc, si c'est ça, ça veut dire qu'il y avait des liens très forts qui se sont tissés entre ces deux hommes, malgré la différence d'âge, n'est-ce pas? Mais ce qu'on sait avec certitude, c'est que l'apôtre Paul, quand il a su que la probité morale du jeune Timothée était reconnue par les frères de Lystre, et ça on le trouve dans Actes chapitre 16, il n'a pas hésité à embaucher Timothée dans son équipe, employer Timothée dans son équipe. C'est sans doute l'une des raisons, entre autres, qui justifie donc l'estime et l'attachement que l'apôtre Paul avait pour Timothée. Malgré sa jeunesse et probablement aussi sa timidité et sa sensibilité, parce que quand on lit les lettres à Timothée, on peut voir entre les lignes que c'était un homme timide, un homme sensible, l'apôtre Paul le prend en charge et le forme. Timothée apprend à grandir à côté de l'apôtre Paul et devient un collaborateur mature, solide, un collaborateur digne de ce nom. Comme quoi, même les plus timides, les plus réservés, les plus sensibles peuvent aussi devenir des leaders dans le travail du Seigneur. Au point que l'apôtre Paul, on n'a pas le temps de le voir ce matin, on va juste voir très rapidement, l'apôtre Paul lui confie des missions très difficiles, très délicates. Par exemple, celle d'affermir la foi des Thessaloniciens qui se trouvaient dans une situation vraiment de détresse. Alors que Paul et Silas avaient dû, ont été confrontés à des persécutions terribles dans cette ville et n'ont eu la vie, sauf que parce qu'ils ont pris la fuite la nuit, ils ont dû s'enfuir de cette ville pour ne pas se faire tuer. Alors que Paul a envoyé Timothée dans une ville pareille pour aller affermir la foi du petit groupe de chrétiens qui s'y trouvaient, dans une ville hostile, clairement hostile au travail missionnaire, cela prouve que Timothée avait sans doute de très bonnes qualités, n'est-ce pas? Très bonnes qualités, en tout cas les qualités nécessaires pour aller faire accomplir cette mission dans la ville de Thessalonique. Il n'allait pas envoyer n'importe qui. L'apôtre Paul envoie Timothée aussi chez les Corinthiens dont l'Église était en train de déraper. Tout simplement pour leur rappeler le contenu du message évangélique que l'apôtre Paul prêchait partout, dans toutes les églises. Ils étaient en train de s'écarter, il fallait qu'ils reviennent à la source. Et donc l'apôtre Paul l'associe dans cette mission-là. À Éphèse, il l'envoie combattre contre les doctrines pas tout à fait conformes à l'Évangile. C'était donc quelqu'un qui faisait preuve aussi de stabilité, de solidité sur le plan de la doctrine chrétienne. L'enfant bien-aimé était désormais un collaborateur capable d'affronter des situations pastorales très difficiles. On pourrait dire sans doute beaucoup de choses encore sur Timothée, mais il y a Épaphrodite. L'apôtre Paul parle aussi d'Épaphrodite dans ce texte. Et c'est surtout les paroles qu'il adresse à Épaphrodite qui ont touché mon cœur cette semaine. Épaphrodite était l'un des membres actifs de l'église de Philippe, la ville de Philippe. Un membre actif qui avait été envoyé auprès de l'apôtre Paul afin de le soutenir dans son ministère apostolique. Le relevons au passage qu'il s'agit donc d'une église missionnaire, qui avait des préoccupations missionnaires, en tout cas une vision missionnaire. C'est également Épaphrodite qui a fait office de convoyeur de fonds, étant donné qu'il partait de Philippe avec une offrande financière dans sa poche pour aider le travail missionnaire de l'apôtre Paul. C'était donc un homme de confiance dans cette église, n'est-ce pas? Cette église, disons-le encore au passage, cette église généreuse, cette église qui avait une vision missionnaire. Et lorsqu'il était avec l'apôtre Paul, on ne sait pas combien de temps cela a duré, mais probablement un temps assez conséquent, Épaphrodite est tombé gravement malade, comme il le dit dans cette lettre. Et il a failli mourir. Il a failli mourir. Mais maintenant qu'il avait récupéré, l'apôtre Paul décide de le renvoyer dans son église mère, n'est-ce pas, l'église des Philippiens, afin que les frères, dit-il, se réjouissent et soient soulagés de le voir. Il dit au verset 26, ceci, « Car il désire vous voir tous, » et au verset 27, « afin que vous vous réjouissiez de le revoir. » On voit bien qu'il y avait un lien de fraternité très fort, n'est-ce pas, entre ces frères. C'était une amitié, une fraternité réciproque qui est évidente dans ce passage. Disons au passage encore, une église fraternelle avec une amitié très forte entre les membres. Et ce que l'apôtre Paul dit de lui est quelque chose de très fort. « J'ai estimé nécessaire, dit-il au verset 25, de vous envoyer mon frère, Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat. » Mon compagnon d'œuvre et de combat. S'il dit cela de lui, c'est sans doute qu'Épaphrodite a joué un rôle très, très, très important aux côtés de l'apôtre Paul. Hélas, l'apôtre Paul ne dit pas tout. On aurait aimé voir, lire un peu plus de détails, n'est-ce pas, mais je pense que ces paroles nous montrent tout de suite que c'était quelque chose, qu'il a fait vraiment quelque chose de fondamental pour le ministère de l'apôtre Paul. Surtout ces mots, n'est-ce pas, qu'il emploie à l'égard d'Épaphrodite. Ces mots suffisent, n'est-ce pas, pour voir que l'apôtre Paul savait valoriser ses collaborateurs et il savait être reconnaissant pour le travail qu'il accomplissait à ses côtés. Il utilise d'abord un mot, un qualificatif affectif, mon frère. C'est un mot du vocabulaire familial pour évoquer donc le lien d'amour qui existe, ce lien d'amour très fort, n'est-ce pas, qui existe entre les frères, les liens fraternels qui l'unissaient à Épaphrodite, son frère en Christ, bien sûr, son frère en Christ. Il était conscient qu'Épaphrodite appartenait à la même famille spirituelle que lui, celle dont Dieu est le Père. Il était conscient qu'Épaphrodite avait lui aussi Jésus-Christ comme grand frère. Mon frère, Épaphrodite, mon frère, il le dit sans doute avec tout son cœur, avec toutes ses tripes. Ensuite, l'apôtre Paul appelle compagnon d'œuvre et de combat. En fait, l'apôtre Paul utilise ici au verset 25 deux mots grecs pratiquement semblables. Le premier se réfère à une personne qui travaille à côté d'une autre. L'idée qui ressort donc de ce mot, c'est celle du travail, encore une fois, en équipe, travail en équipe, de ceux qui sont liés en vue d'une mission commune. On pourrait les appeler les équipiers, les coéquipiers, parce qu'ils font partie de la même équipe, du même groupe de travail. Ils sont collaborateurs. Le deuxième mot se réfère à une personne qui lutte ou qui combat à côté d'une autre en tant que soldat. On pourrait l'appeler effectivement un compagnon d'armes, n'est-ce pas ? C'est d'ailleurs la traduction de la Bible du Semeur que je vous ai lue tout à l'heure. Dans les deux situations, il y a une vérité très importante. C'est que soit dans une équipe de travail, soit dans une armée qui combat, le rôle de chacun est fondamental, est très important, est nécessaire, indispensable pour atteindre l'objectif visé. Mais ce que l'apôtre Paul veut dire ici, c'est surtout qu'Épaphrodite est beaucoup, beaucoup plus qu'un simple collaborateur, beaucoup plus qu'un simple coéquipier. Il est un ami. Il est un ami qui a partagé tous ses dangers. Il est un frère qui a pris part à ses combats et qui a fait face aux mêmes difficultés que lui, apôtre Paul, aux mêmes périls. Son dévouement a été total et l'apôtre Paul lui était infiniment reconnaissant pour cela. Après cet aperçu de la vie de l'apôtre Paul avec ses collaborateurs, je me suis demandé qu'est-ce que nous pouvons retirer pour nous aujourd'hui, pour la vie de nos églises et en particulier pour notre église ici à Clermont-Ferrand. Alors très rapidement, je dirais que d'abord, la première leçon, c'est que le travail du Seigneur est un travail qui se fait en relation les uns avec les autres, dans l'harmonie, dans la fraternité, dans l'amitié. C'est uni que nous sommes les plus forts. C'est uni que nous sommes les plus forts. C'est ensemble que nous ferons des exploits pour le Seigneur, comme dit le chant, n'est-ce pas ? John Maxwell raconte une histoire dans son livre « Les 17 lois du travail en équipe ». Il s'agissait d'une compétition de chevaux pour déterminer quel cheval parviendrait à tirer le traîneau le plus lourdement chargé. Une année, le champion a réussi à tirer 2038 kilos et le second 1993 kilos. Comme les spectateurs se demandaient quel poids les deux chevaux seraient capables de tirer ensemble s'ils unissaient leurs efforts, on les a attelés ensemble et ils ont tiré plus de 5440 kilos, soit 33% de plus que la somme de leurs efforts individuels. Voilà une illustration, nous ne sommes pas des chevaux bien sûr, mais voilà une illustration qui montre que l'union fait la force, qui montre qu'il y a une grande puissance dans la collaboration, dans le travail en équipe. La stratégie de l'apôtre Paul était bonne. La stratégie de l'apôtre Paul était bonne. Et donc j'aimerais vous dire ce matin, suivons-la, suivons cette stratégie, elle est bonne, elle a produit ses effets. Et elle continue à produire ses effets un peu partout lorsque des hommes et des femmes s'unissent pour travailler ensemble pour le Seigneur. L'Église doit être un rassemblement de serviteurs, de coéquipiers, de compagnons, de collaborateurs, de compagnons d'armes, de frères, d'amis, de personnes qui travaillent ensemble, main dans la main, avec un seul et même objectif, l'annonce de la bonne nouvelle du règne de Dieu, la proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ Sauveur, l'édification du corps de Christ sur la terre. C'est dans cette conjugaison des efforts des uns et des autres que nous réussirons à accomplir ici à Clermont-Ferrand plus efficacement la mission que le Seigneur confie à notre Église. Il y a une force, il y a une puissance dans le travail en équipe. Une caractéristique très importante de la collaboration, on le sait bien, c'est l'encouragement mutuel, n'est-ce pas? Et on a besoin très souvent d'être encouragés les uns les autres. L'encouragement mutuel, il y a une stimulation, il y a un encouragement, une aide mutuelle qui fait la réussite des actions entreprises ensemble. Grâce à cette collaboration mutuelle, les difficultés et les obstacles peuvent être mieux surmontés. Quelqu'un disait, se rassembler est un début. Rester ensemble est un progrès. Travailler ensemble est la clé du succès. Travailler ensemble est la clé du succès. Et quelqu'un d'autre ajoutait, là où il y a une volonté, il y a une voie. Là où il y a une équipe, il y a plus d'une voie. Que le Seigneur bénisse notre Église.